Deuxième livre des rois, le verset 14, tout d'abord. Pardon, le deuxième livre des rois, chapitre 13. Et à partir du verset 14. On a un court récit de la parole de Dieu dans ce passage. Deuxième livre des rois, chapitre 13, verset 14. Nous a dit Élisée était atteint de la maladie dont il mourut, et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage, et dit « mon père, char d'Israël et sa cavalerie ». Nous reprenons la lecture au verset 20. Élisée mourut, et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays, et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ses troupes, et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée, et il reprit vie, et se leva sur ses pieds. Voilà, c'est un épisode, je dirais, isolé de l'histoire de cette nation d'Israël, dont se préoccupe l'Ancien Testament, première partie de la Bible. C'est un événement qui n'a pas changé l'histoire de cette nation, un événement qui n'a pas bouleversé la destinée d'Israël, en tout cas jusqu'à la venue du Christ. Mais on imagine, bien sûr, que les hommes et les femmes, peut-être, qui ont été témoins de cette scène remarquable qui nous est décrite, cette résurrection de cet homme jeté là sur les eaux, sur la dépouille du prophète Élisée, et qui a repris vie en le touchant, a dû marquer durablement ceux qui y ont assisté. Il y a donc dans ce passage, avant d'en arriver à cet événement, le récit très bref de la mort d'Élisée. Élisée était un homme de renom, un homme remarquable, une figure emblématique de l'Ancien Testament, d'Israël. Pour être plus précis, c'était un prophète qui exerçait sa fonction dans le royaume d'Israël, c'est-à-dire le royaume situé au nord du peuple d'Israël, de la terre sur laquelle les 12 tribus d'Israël demeuraient, après qu'il y a eu une séparation en deux dans ce royaume. Il y avait un royaume au nord, et c'est là que Élisée exerçait sa fonction, et un royaume au sud. Élisée était un prophète remarquable, un homme dont Dieu s'est servi pour bénir Israël à plusieurs reprises dans les pages qui précèdent. On aperçoit que Élisée a été l'instrument de Dieu pour apporter de grandes délivrances à ce peuple. Élisée notamment a guéri des malades. Il a été l'instrument de Dieu pour opérer des résurrections de morts, des miracles glorieux qui ont marqué durablement son époque. Et Élisée avait succédé, ne l'oublions pas, à Élie, un autre prophète, une autre figure emblématique de l'Ancien Testament. Et c'est ces deux hommes, en quelque sorte, par le ministère et par l'œuvre prophétique qu'ils ont accomplie au milieu du peuple d'Israël, ont marqué durablement l'histoire et la vie de ce peuple. Or, il nous est dit ici que Élisée a été atteint d'une maladie, et cette maladie s'est développée, et il en est mort. Il en est mort, sans doute, dans sa vieillesse. Ça a été un choc, n'est-ce pas, pour le peuple d'Israël, qui devait être attaché à lui. Même des hommes de Dieu éminents parviennent à leur fin. Vous voyez, seul Dieu est éternel, sur la terre, en tout cas. Et nous ne devons pas nous confier dans les hommes, aussi éminents, aussi bénis soient-ils. Nous ne devons jamais nous confier en des hommes, mais dans le Seigneur, qui lui demeure le même d'âge en âge. Et si les hommes et les générations passent, Dieu demeure toujours, et le Dieu d'Élisée et d'Élie vit et œuvre encore aujourd'hui. Il est à l'œuvre parmi les hommes parce qu'il nous aime, parce qu'il n'y a en lui ni changement, ni ombre de variation. Et quand bien même nous perdrions dans la vie un appui de poids, quelque chose qui a été pour nous un point de référence, c'est toujours une douleur, c'est toujours une déstabilisation pour nous, mais regardons à Dieu. Regardons à Dieu qui, lui, ne varie jamais. Alors, on va parler de la maladie d'Élisée dans un premier temps. Ensuite, nous allons voir un petit peu ce qui s'est produit quand on a jeté la dépouille de cet homme et cet homme mort, jeté sur la dépouille d'Élisée, a repris vie. Puis ensuite, pour terminer, on verra un petit peu les applications spirituelles que l'on peut dégager de ce récit qui nous est ici conservé dans le livre des Rois. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Il y a parfois, sur un plan spirituel, des fausses conceptions de la maladie qui peuvent circuler, pas forcément chez les incroyants, parfois justement chez des gens qui ont quelques notions de ce que la Bible dit, mais des notions imprécises. Par exemple, c'est vrai que à l'origine, lorsque Dieu a créé la terre, le ciel, tout ce qu'il renferme, quand il a créé l'homme, il n'entrait pas dans le plan original de Dieu que l'homme soit soumis à la maladie. Ce n'est pas ce que Dieu voulait. Dieu avait créé l'homme plein de force, et physiquement même, Dieu avait doté l'homme d'une force, et ça devait rester là, en pleine santé. C'est le péché, on va le voir, c'est quand l'homme s'est détourné de Dieu, quand l'homme a délibérément désobéi, transgressé le commandement que Dieu lui a donné, que le résultat a été cette séparation, la mort en réalité, car Dieu avait dit à l'homme, le jour où tu transgresseras le commandement, tu mourras. Et il ne parlait pas seulement ici de la mort physique, puisque la mort physique n'est pas intervenue le jour même, mais la désobéissance de nos premiers parents a amené une rupture de la communion entre l'homme et Dieu. Et la mort, c'est avant tout cela, c'est la rupture de communion, la rupture de communion entre l'homme et son créateur. Et ça, c'est aussi la mort physique, elle en découle, elle en fait partie de cette mort, et la maladie, vous voyez, c'est un germe de mort, et la maladie, elle a été en ceci une conséquence du péché, une conséquence du mal qui a été commis. Voilà, alors jusqu'ici, ça c'est absolument indiscutable, c'est indéniable. Mais certains pensent parfois, quand quelqu'un est malade, que c'est toujours la conséquence de ses actions. Et on a parfois cette idée qui circule, ah, telle personne est malade, ben, c'est certainement qu'elle a fait quelque chose de particulièrement mal. C'était vrai aussi du temps où le Christ était présent sur la terre, puisque quelqu'un là qui était dans un état particulièrement regrettable, aveugle, bien, les gens se parlaient entre eux, ils disaient, mais qui a péché? Est-ce que c'est lui? Est-ce que ses parents? Pour que cet homme soit dans cet état? Et voilà, comment expliquer ces choses? Et le Seigneur leur montrera que les choses ne sont pas si simples. Vous voyez, si quelqu'un était toujours malade, en conséquence d'une faute particulière qu'il aurait commise, ça voudrait dire que tous les gens bien portants n'ont jamais rien fait de mal. Et ça, c'est absolument faux. Nous le savons parfaitement, d'ailleurs la Bible rend ce témoignage humiliant, mais réel, en disant qu'il n'y a pas un homme qui ne pêche jamais et qui fasse toujours ce qui est bien. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà. Et c'est d'ailleurs un prérequis pour nous approcher de Dieu, reconnaître le fait de notre péché, de notre culpabilité. Il ne s'agit pas d'en rajouter, il ne s'agit pas de vivre avec une conscience maladive ou moribonde, mais tout simplement de reconnaître la culpabilité juste de nos actes, de nos paroles, de nos pensées, ce qui a offensé Dieu dans nos vies, qui a, dans nos parcours divers et variés, des moments où nous avons eu affaire avec le mal, nous avons commis le mal, et ça ne regarde pas un confesseur, ça ne regarde pas un homme d'église, Mais c'est une affaire entre Dieu et nous, et il faut absolument régler cette affaire. Et on va y revenir pour terminer. Mais la maladie, voyez, si elle est de manière absolue la conséquence du péché, parce qu'elle est entrée dans le monde quand le péché y est entré, elle n'est pas toujours la conséquence directe du péché de la personne qui est atteinte de la maladie. Ici, ce n'était pas un pécheur, c'était un homme de Dieu éminent, nous l'avons dit, c'était Élisée. C'était en outre un prophète, nous l'avons dit, au moyen duquel de glorieux miracles s'étaient produits en Israël, et lui-même a été l'instrument de Dieu pour opérer des guérisons. Nous l'avons dit, même des résurrections de morts, des miracles glorieux. On pense, par exemple, à ce qui s'est passé dans la ville de Jéricho, quand on ne pouvait rien y manger, parce que la source qui alimentait la ville était polluée, elle était corrompue, elle était amère. Et on a été chercher le prophète Élisée, et par une intervention de ce prophète, il n'y avait plus rien de mauvais dans cette source, et on pouvait à nouveau se restaurer et faire pousser des choses là dans la ville de Jéricho. On pense à ce potage qui avait été préparé et que personne ne pouvait manger, c'était une période de disette, une période de famine. Le prophète Élisée avait dit, eh bien voilà, jetez un petit peu de farine dans le pot, et ce n'était pas la farine, c'était un acte de Dieu, à nouveau, on a pu se rassasier et manger de ce potage. Cet homme était un homme de foi. C'est un homme de foi. Il savait ce que Dieu était capable de faire, et sa foi le rendait éminemment capable d'être un instrument de Dieu pour que Dieu, à travers lui, opère ses glorieux miracles en Israël. Donc ici, sa maladie n'était pas non plus une conséquence de son manque de foi. Parce que ça aussi, ce sont des idées qui parfois circulent. Ah, celui-là, il est malade, et il ne s'en sort pas, parce qu'il manque de foi. Hein, tu es malade, c'est parce que tu n'as pas la foi pour guérir. Non, je crois qu'il faut éviter de tenir ce type de discours à quelqu'un qui est malade, même en pensant l'aider. Nous avons tous à l'esprit ce récit de la vie de Job, cet homme dont il nous est rendu le témoignage qu'il était juste devant Dieu et qui a été éprouvé, grandement éprouvé dans sa famille, dans son entourage, dans ses biens, dans ce qu'il avait de plus précieux et dans sa propre santé. Pendant un temps qui s'est prolongé, Job a été malade et ce n'est pas que Dieu le désapprouvait, ce n'est pas non plus que Job manquait de foi. Et des amis bien intentionnés sont venus à son chevet, ils lui ont parlé, il y en avait trois en fait, il y en avait un quatrième qui est venu aussi. Et finalement, la substance de leur discours revenait à dire à Job, tu es malade, c'est parce que tu as péché. Et ce n'était pas du tout ce qu'il avait besoin d'entendre, et on imagine que ça l'a écrasé encore plus, son âme était déjà souffrante. Vous savez que quand le corps souffre, l'âme est souvent abattue aussi. Il n'avait pas du tout besoin d'entendre ça, parce que ce n'était pas vrai. Alors, quelle est l'origine de la maladie? Regardez, je voudrais qu'on prenne le temps d'aller dans l'Épître aux Romains, pour lire au chapitre 8 ce texte. Épître de Paul aux Romains, au chapitre 8. Épître de Paul aux Romains, chapitre 8. Et au verset 18, Épître de Paul aux Romains, chapitre 8, verset 18, où il nous est dit ceci, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu » c'est-à-dire le moment où, comme nous l'avons chanté, tous les chrétiens authentiques ressusciteront et seront manifestés à l'univers tout entier, pour ainsi dire, seront révélés. Ce qui est attendu encore aujourd'hui deviendra réalité, ce sera révélé, manifesté, ce sera la révélation des fils de Dieu. Écoutez bien maintenant le verset 20 qui nous dit « Car la création a été soumise à la vanité. » Toute la création. « Non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. » Alors, de qui l'apôtre parle-t-il ? Qui est celui qui a soumis la création à la vanité ? Quand vous lisez attentivement cet épître aux Romains, vous voyez que l'apôtre ici parle d'Adam. C'est le premier homme, celui qui nous représentait, et comme nous le disions tout à l'heure, par sa désobéissance, il a soumis toute la création à la vanité. Vous voyez un petit peu les conséquences de la désobéissance d'Adam, notre premier parent. Il avait cette immense responsabilité de représenter devant Dieu l'ensemble des hommes et des femmes. Il portait en lui, en quelque sorte, le genre humain. Or, la Bible nous montre de manière très claire que quand Dieu a créé le monde et tout ce qui s'y trouve, quand il a créé l'homme, car l'homme est une création divine et pas du tout le produit de l'évolution, quand Dieu a créé l'homme, eh bien, il l'a placé à la tête de sa création, en tout cas de sa création terrestre. Et toute chose lui était soumise. La création terrestre avait, on le voit très nettement, finalement, avait pour vocation de servir de théâtre d'évolution à l'homme. Il devait nommer tout ce qui s'y trouvait, dominer sur les animaux, etc., etc. Et quand l'homme désobéit, quand il fait ce choix redoutable de transgresser le commandement de Dieu, c'est toute la création qui est soumise à la vanité. La mort entre dans la vie de l'homme, non seulement d'Adam et d'Ève, mais de toutes les générations, vous voyez. C'est pourquoi le monde est-il dans cet état? Pourquoi l'homme naît-il avec un cœur naturellement enclin au mal, contrairement à ce que nous disent les philosophies ou certaines religions du monde? Non, c'est un fait, ça. Le cœur de l'homme est capable d'excellentes choses, mais en dehors de la communion avec Dieu, il est capable aussi du pire, et de choses innommables, parce que la mort est entrée par là. Et puis le monde, regardez, le monde animal, c'est redoutable de voir ces animaux qui s'entre-déchirent. C'est fascinant, mais c'est aussi terrible de voir ces émissions où on voit que la chaîne alimentaire, nous dit-on, où on voit ces animaux qui sont mangés par des prédateurs. Dieu n'avait pas créé les choses ainsi. Ce n'est pas ce que Dieu avait voulu. Vous rendez compte un petit peu l'influence du péché, l'influence du mal. Tout a basculé et a rempli le monde de sang et de violence à tous les échelons et à tous les niveaux. La création a été soumise à la vanité, c'est ce qui est écrit, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. On reprend la lecture, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Ça veut dire que, voilà, on sent que ce n'est pas définitif. Dieu n'a pas abandonné sa création. Dieu n'a pas tiré un trait, Dieu n'a pas laissé les choses aller au chaos de manière irrémédiable, mais comme il l'a prouvé en donnant son Fils, Jésus-Christ, qui a livré sa vie pour la rédemption, pour le rachat de ceux qui croiraient en lui, et comme il a prouvé que cette œuvre avait été agréée, efficace, en le ressuscitant d'entre les morts. Et puis ensuite, Jésus est monté à la droite de Dieu, c'est l'ascension. Bien, le monde attend quelque chose maintenant. Il y a eu cette preuve de l'amour, de la visitation de Dieu. Et là, nous sommes dans un temps d'attente où Dieu va parachever cette œuvre. Il va la consommer. Il va la consommer quand Christ reviendra, comme l'Écriture l'enseigne. Et prendra avec lui pour toujours les chrétiens glorifiés, ressuscités. Voilà, alors, verset 23 maintenant. « Or, ce n'est pas elle maintenant, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. » Alors ça, c'est un texte qui nous parle des chrétiens, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui un jour ont fait demi-tour dans l'existence, se sont rendus compte de la folie qu'il y avait à vivre loin de Dieu, sans se soucier de lui. Ils se sont humiliés devant Dieu pour leurs péchés, ils en ont reçu le pardon, ils ont reçu le don d'un cœur nouveau, Dieu est venu habiter leur cœur, et il nous est dit qu'ils sont sauvés, et un chrétien est sauvé, il a la vie éternelle. Le Seigneur dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle, il ne vient pas en jugement, il est passé de la mort à la vie, ça ce n'est plus à faire. Le pardon de ses péchés, c'est un fait glorieux, et quelque chose s'est produit. Mais il y a un autre sens, et c'est écrit ici, où le chrétien est sauvé en espérance seulement. Alors dans quel sens ? Bien, le texte nous en donne la réponse, et c'est pourquoi nous avons lu ce texte. Sur le plan du corps, bien le salut n'est pas encore tout à fait accompli, il n'est pas encore totalement consommé. Pour l'instant, il y a dans la vie du chrétien une œuvre authentique, véritable de Dieu. Le salut est entré dans sa maison, pourrait-on dire. Mais le corps du chrétien, bien, il demeure toujours ce corps soumis à la vanité, pourrait-on dire, à la mort. Car, sauf pour ce qui concerne les chrétiens présents lors de l'avènement de Christ, nous devrons tous passer par la mort. Notre corps a été tiré de la poussière et il retournera à la poussière. Et pour la même raison, notre corps, puisque c'est en espérance que nous sommes sauvés, notre corps est toujours là, un corps d'humiliation. Il porte toujours les marques, ce corps, de la transgression d'Adam, vous voyez. C'est pour ça que, on le disait l'autre jour, au fur et à mesure que les années passent, je ne sais pas vous, mais on a besoin de plus en plus de médicaments pour que ça tourne rond, pour que ça fonctionne. Il y a telle ou telle chose qui se détraque, voilà, et ça ne s'arrange pas avec les années. Ben, ça, c'est inévitable. La Bible parle du corps, et même du corps du chrétien, comme d'un corps d'humiliation. Paul, cet homme de Dieu remarquable, dira, mais notre être extérieur, il dépérit. Eh oui. Cet apôtre du Christ reconnaît que dans son corps, il était exposé à des tribulations, à des coups, la maladie sans doute, il parlera de cela le concernant lui-même. Et ça, c'est le lot de tous les hommes sur la terre. Vous voyez ? Alors, bien sûr, on va y arriver, ça n'empêche pas que Dieu soit capable de nous toucher, de guérir la maladie. Dieu est tout puissant. Et en Christ, Dieu se plaît à bénir. D'ailleurs, le Christ, quand il était présent sur la terre, a béni et a guéri de nombreux malades, a opéré des miracles extraordinaires, redonnant la vue à des aveugles, rendant l'usage de leurs membres à des paralytiques. Et le Seigneur le fait encore aujourd'hui. J'ai connu des gens qui, atteints de paralysie, contre laquelle la médecine ne pouvait rien faire, ont été au bénéfice d'une œuvre extraordinaire de Dieu et ont recouvré aujourd'hui l'usage parfait de leurs membres. On a connu, moi je n'ai pas connu, mais dans certaines villes de France, des cas d'aveugles qui ont été absolument guéris, miraculeusement, par la foi dans le Seigneur. Voilà, ça nous ne mettons pas en doute la puissance de Dieu. C'est en quelque sorte les arts de l'accomplissement de sa promesse. Et il y a cette promesse glorieuse qui dit que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Bien, cette promesse, elle est vraie. Elle aura néanmoins son plein accomplissement dans l'éternité. Quand, comme il est écrit, le Seigneur transformera notre corps d'humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Vous voyez, dans une église, pas ici, il y avait une chrétienne, une authentique chrétienne, qui était paralysée. Et ça a duré, ben c'est, voilà, elle a porté cette maladie des dizaines d'années. Et on imagine toutes ces prières qu'elle a formulées, que les chrétiens ont formulées pour elle. Et souvent cette question revenait, mais pourquoi ? Pourquoi ? Et elle-même, parfois, se torturait, se disait, est-ce que je n'ai pas assez de foi ? Et parfois, ces paroles de l'Écriture lui posaient un véritable problème, et on comprend, dans ces meurtrissures, nous avons été guéris, et voilà où j'en suis. C'était terrible, à la souffrance physique s'ajoutait la souffrance morale et tout ceci. Et alors que, voyez, qu'est-ce qu'il fallait lui dire ? Hein, tu n'es pas guéri parce que tu n'as pas de foi ? Non, ça n'avait rien à voir. Simplement ce verset, c'est dans ces meurtrissures que nous sommes guéris, bien, il aura sa pleine accomplissement au jour de la consommation de toute chose. Celui dont il est question dans le texte que nous avons lu, le jour de la révélation des fils de Dieu. Le jour où le Seigneur ressuscitera nos corps, ils auront péri, mortels, d'humiliation, corruptibles, ils les ressusciteront incorruptibles, c'est écrit, glorieux, plein de force. Et là, cette parole, elle sera accomplie parfaitement. Alors, voilà, il vous semble peut-être qu'on a fait un grand détour, mais il fallait énoncer ces choses pour arriver là à comprendre cette mort du prophète Élisée, cet homme de foi, ce prophète remarquable. Pourquoi est-ce qu'il est mort ? Bien parce que, voilà, il avait part, lui aussi, à la vanité de la création. Son corps a été atteint de maladie et il a fermé les yeux à la terre. Mais son âme est partie dans la gloire du Seigneur, où il a trouvé auprès de Dieu une félicité sans mélange. Une toute petite parenthèse encore sur ce point. C'est pourquoi un chrétien ne doit pas avoir honte de recourir à la médecine quand il est atteint de maladie. Là encore, il est bon pour nous d'être équilibrés sur ce point. Dans une église, là je dis ça sans la condamner, mais il y avait une chrétienne authentique, une chrétienne sympathique, et elle était atteinte d'une toux permanente. Elle disait, moi, non, je ne veux pas chez le médecin. Je ne veux pas chez le médecin parce qu'il faut que le Seigneur me guérisse. Elle a traîné cette toux pendant des dizaines d'années. Bien, ça, vous voyez, ce n'est pas équilibré. Le Seigneur lui-même, dans son enseignement, a dit, ce ne sont pas ceux qui sont bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Ça veut bien dire que le Seigneur Jésus lui-même n'avait rien contre les médecins. C'est vrai qu'il est dit d'un homme qui s'appelait Asa, c'est un roi d'Israël, que Dieu lui a tenu rigueur de ce que, dans sa maladie, ne chercha pas Dieu, mais les médecins. Mais vous voyez, c'est tout à fait différent. Ce que Dieu lui a reproché à Asa, c'est pas de chercher les médecins, c'est de ne pas chercher Dieu. Parce que si la maladie n'est pas toujours le fruit de nos propres mauvaises actions ou de nos péchés directement, Dieu peut, dans son amour, si quelqu'un là dérape de sa volonté, si quelqu'un s'endurcit dans le mal, si quelqu'un tombe dans la folie, Dieu peut l'arrêter par la maladie. Ça, c'est vrai aussi. Ça fait partie de la souveraineté de Dieu. Et la Bible nous montre que parfois, Dieu a envoyé la maladie pour stopper les hommes dans leur folie. Et là, il est dit, au jour du malheur, réfléchis. Et on a connu des gens pour qui Dieu a permis, là, qu'ils soient frappés de maladie à cause de leurs inconséquences, de leurs transgressions. Et ça les a arrêtés, et ils ont réfléchi, ils ont crié à Dieu, et Dieu les a restaurés, ou parfois pas restaurés dans leur corps, mais ce qui était plus important, les a restaurés dans leur âme. Alors voilà un premier enseignement qu'on peut tirer de la maladie d'Élisée. Élisée, ce prophète, était atteint de la maladie dont il est mort. Puis une deuxième pensée, et vous voyez, ces choses-là, on les trouve dans la Bible, c'est pas du tout pour nous amener à être incrédules. Au contraire. Le fait que nous puissions, nous, être malades et souffrir dans notre corps, même en tant que chrétiens, à cause de la maladie, ne change rien à la puissance de Dieu qui, lui, reste le même et qui demeure l'Éternel qui guérit. Et la preuve, c'est que, regardez, Élisée est mort et on l'a enterré. Et sa dépouille est restée pendant une année environ, là, dans ce sépulcre, où on l'avait jeté, il ne restait plus que les os. Et voilà, c'est ce récit que nous avons lu, on enterrait quelqu'un, on enterrait un Israélite, alors qu'une guerre était en cours avec les Moabites, c'est une nation qui demeurait non loin d'Israël et qui était un ennemi opiniâtre d'Israël. Et vite, parce que les soldats sont arrivés, on n'avait pas le temps de faire autre chose, on a pris sa dépouille et hop, on l'a jeté dans une fosse, et ça se trouvait être la fosse où avaient été jetées les os d'Élisée. Et qu'est-ce qui s'est produit? Bien sûr, on ne s'y attendait pas, mais alors que sa dépouille a touché les os du prophète, la puissance de Dieu s'est déployée et la vie a été restaurée dans son corps. Vous imaginez un peu la surprise de ceux qui avaient jeté sa dépouille quand ils l'ont vu à nouveau, là, plein de vie, se dresser sur ses pieds, les accompagner. Voilà, quel miracle extraordinaire. Même à travers la dépouille du prophète Élisée, qui était mort depuis un an, Dieu prouvait ainsi à Israël que lui demeurait le même. Et l'application qu'on peut en faire, c'est que jamais, quelles que soient les circonstances, et quelle que soit notre propre faiblesse, nous ne devrions raisonner en disant, bien, je suis dans un tel état que non, je ne peux pas rendre témoignage de la puissance de Dieu. Parfois, on a vu des chrétiens qui raisonnaient ainsi et qui disaient, mais voilà, moi je suis malade, voyez, je suis atteint de cette maladie qui ne guérit pas. Comment voulez-vous que moi je rende témoignage aux autres du fait que Dieu guérit? Mais ça n'a rien à voir. Parce que nous ne nous rendons pas témoignage à nous-mêmes, mais nous rendons témoignage au Seigneur. Vous voyez, je pourrais vous parler de ce cas authentique d'un homme, d'un prédicateur de l'Évangile, un homme de Dieu, un homme de foi, qui était lui-même atteint de maladies, il boitait, il se déplaçait avec des cannes. Et pourtant, alors quand il prêchait l'Évangile, à plusieurs reprises c'est arrivé, des malades se sont avancés pour qu'il prie avec eux, et Dieu les a guéris. Comment vous expliquez ça? C'est la souveraineté de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste dans notre faiblesse. Vous voyez, c'est pour ça aussi que Dieu a choisi de faire prêcher l'Évangile à des hommes, mais non pas à des anges venus des cieux. Ça fait partie du mystère de la providence divine. Et puis quelqu'un dira peut-être, moi je suis triste, je ne sais pas ce qui m'arrive. Un chrétien peut passer par un temps de tristesse. Est-ce qu'un chrétien peut vivre même une dépression? Oui, 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 oui. Je me souviens du témoignage de ce prédicateur de l'Évangile qui disait lui-même être passé par un temps de dépression intense. Et il disait, quand je prêchais l'Évangile, alors ça me faisait du bien, j'étais bien, mais dès que j'avais perdu le contact avec les autres, quand je me retrouvais tout seul, bien, mon âme était comme écrasée par un fardeau, par une chape, et j'y pouvais rien. Cet homme de foi, que tout le monde reconnaissait, a passé lui-même par ce moment. Et pourtant, à travers cet instrument, malgré le temps qu'il passait, eh bien, Dieu a continué à bénir à travers lui. C'est remarquable. C'est remarquable. C'est la souveraineté de Dieu. Quelle humilité! Ça ne vient pas de l'homme. L'œuvre de Dieu se fait par l'homme, mais ce n'est pas de l'homme. C'est l'œuvre de Dieu. Et ça devrait nous encourager, quel que soit notre état, à continuer à demeurer ferme dans la foi. Ça nous encourage à l'humilité, ça ne vient pas de nous. Ça nous encourage à la foi, ça vient de Dieu. À travers la dépouille d'Élisée, mort depuis un an, Dieu a rendu la vie à un homme qui était mort. Puis on termine par l'application spirituelle de ce récit. Quelle est-elle? Bien, elle nous touche directement. Et je dirais qu'elle nous touche, elle vous touche particulièrement si vous êtes présent cet après-midi et que Christ n'est pas encore devenu votre sauveur personnel. Si vous êtes là cet après-midi au milieu de l'église en disant « Oui, j'aime bien ce lieu, j'aime bien ces réunions, j'y viens parce que ça me fait du bien, mais quand on me parle de l'éternité, de l'avenir éternel de mon âme, de mon salut, bien là, je suis dans le flou, je n'y vois pas trop clair. Peut-être même j'évite de penser à la mort parce que ça me fait peur. J'aimerais avoir l'espérance de ces chrétiens. J'aimerais avoir cette foi, mais je sens que c'est pas encore en moi, ça. Peut-être vous dites, je suis encore esclave de telle ou telle passion, de tel ou tel vice, de tel penchant qui triomphe de moi. Je sens bien que je suis là livré à l'esclavage du mal. Et quand les prédicateurs de l'Évangile parlent du pardon des péchés, mais j'en ai besoin, je ne suis pas certain de l'avoir reçu, je ne crois pas l'avoir reçu. Quand je voudrais faire le bien, parce que depuis que je viens à ces réunions, j'essaye de m'améliorer, j'essaye de renoncer à telle pratique, mais c'est plus fort que moi, je pratique le mal, je fais le bien, je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Voilà, si vous en êtes là, eh bien, l'application de ce récit, elle vous concerne, elle est pour vous. Cette application, c'est que par, non pas un prophète, mais par son fils bien-aimé, par le Seigneur Jésus, mort pour vous, le Seigneur voudrait donner la vie, rendre la vie à votre âme. Vous voyez, Élisée est mort, et son âme est partie avec le Seigneur, et il n'est pas revenu. Mais la Bible rend témoignage de Jésus-Christ en disant que lui aussi est mort. Mais lui n'est pas mort, n'est-ce pas, à cause de lui. Il est mort pour vous. Il est mort pour nous. Christ est venu pour mourir. Contrairement à tous les prophètes qui pouvaient accomplir des miracles, annoncer les oracles de Dieu, mais pas nous représenter devant Dieu, pas être des intermédiaires entre Dieu et nous. Ça, c'est pas possible. Un homme ne peut pas, un homme d'église, le plus pieux qui soit, ne peut pas être un intermédiaire entre Dieu et vous. Mais Christ, parce qu'il est parfaitement Dieu, et qu'il a accepté pour nous, par amour pour nous, d'être parfaitement homme, parce qu'il a paru comme un simple homme, parce qu'il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort de la croix, parce qu'il s'est chargé de nos fautes, parce qu'il a porté nos péchés en son corps sur le bois, eh bien, il peut, par sa mort, nous réconcilier avec Dieu, ensevelir ce que nous étions, faire disparaître cette vie vile, souillée et misérable qui a été la nôtre, dans le tombeau, et nous faire renaître avec lui à une vie nouvelle. Et c'est ce qu'il nous prouve par sa résurrection, c'est ce qu'il fait dans sa résurrection. Et vous qui dites, j'ai besoin de tout recommencer. J'ai besoin que mes péchés, que ma conscience soient lavés. J'ai besoin qu'un trait définitif soit tiré sur ma vie ancienne. Je ne sais pas comment faire. J'ai essayé par la religion. Je viens ici, j'essaie de lire la Bible. J'essaye un peu de prier de temps en temps chez moi, mais ça n'apporte rien, c'est même pire. Oui, oui, parce que ça ne peut pas venir de vous, mais seul Christ est capable, non pas de vous améliorer un petit peu, ce n'est pas du tout ce que Dieu se propose de faire, mais vous faire renaître, vous ressusciter. Un homme de Dieu, un apôtre, a pu dire, j'ai été crucifié avec Christ, et Dieu nous a ressuscités ensemble, et il nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous fait naître de nouveau, il nous fait tout recommencer. C'est une page de notre vie qui se tourne. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Elles disparaissent avec Christ dans le tombeau. Et toutes choses deviennent nouvelles. Voilà, ça c'est l'application de notre texte. Ces eaux, c'est cette dépouille sans vie qui ne pouvait rien faire, elle est jetée et au contact de l'homme de Dieu, mort, elle revient à la vie. Dans la foi en Christ crucifié pour nous, nous pouvons ce soir recevoir le pardon de nos fautes, l'assurance du pardon de nos fautes, la communion avec Dieu restaurée, une résurrection, et l'assurance que la vie de Dieu vient en nous. Je vous propose que nous nous recueillions.